Et oui, ce dimanche ont eu lieu dans les différentes villes de notre région les cérémonies commémorant le 77e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Devant l'hôtel de ville pour les plus petites communes ou autour du monument aux morts, la lecture du discours du général de Gaulle du 8 mai 45 a été suivie de la sonnerie aux morts, une minute de silence et de la Marseillaise. Nous allons tenter de faire un parallèle ce matin entre cette victoire sur le régime nazi avec la guerre en Ukraine, puisque vous le savez, Vladimir Poutine a justifié son opération militaire, que je mets entre guillemets, par le besoin de dénazifier l'Ukraine. Nous sommes en compagnie de Philippe Foureau. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès, chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse et enseignant d'histoire du christianisme au séminaire de Toulouse. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est exactement passé les jours précédents le 8 mai 1945? Qu'est-ce qui nous y a mené?
Oui, alors il faut peut-être partir du mois de janvier 1943. Ce mois de janvier 1943 réunit Churchill et Roosevelt à Anfa au Maroc. Or, les deux dirigeants anglo-saxons ne veulent pas recommencer ce qui s'était passé en 1918, c'est-à-dire un armistice qui allait suspendre les combats en attente d'un traité de paix. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une capitulation sans condition des ennemis nazis, fascistes et japonais. Et Staline a acquiescé à ce principe. Donc, il faut dire que dès ce moment-là, les Allemands savent qu'il n'y aura pas de négociation et qu'il y aura, en cas de défaite, une capitulation sans condition. Et c'est donc ce qui se passe en ce début de mois de mai 1945. Berlin vient de tomber. Berlin vient de tomber, la bataille de Berlin a commencé le 16 avril, terrible bataille d'ailleurs, on parle de 100 000 morts rien que dans le côté soviétique. Et donc le 2 mai, les combats ont cessé, Hitler s'est donné la mort le 30 avril, et donc il y a à ce moment-là un début de capitulation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des capitulations, je dirais régionales. Par exemple le 4 mai, à Lunebourg, dans le nord de l'Allemagne, le maréchal britannique Montgomery reçoit la capitulation des troupes qui sont stationnées encore aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège. Il y a même des capitulations locales en Italie du Nord. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que le 7 avril, le 7 mai, le général Alfred Jodl arrive à Reims, au quartier général d'Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées. Et il est représentant de ce qui reste du gouvernement allemand, qui est dirigé à l'époque par Karl Dönitz. Et il va signer une première capitulation dans une école de Reims, que l'on visite d'ailleurs encore aujourd'hui, devant le général Eisenhower.
Mais en fait, ça ne suffit pas.
Moscou, Staline, estime que la capitulation à Reims n'est pas assez significative. Il faut qu'il y ait capitulation à Berlin, c'est-à-dire au cœur du Reich.
Et donc c'est cette capitulation qui est actée le 8 mai.
Qui est actée le 8 mai. Ce jour-là, le commandant en chef des forces armées allemandes, le maréchal Wilhelm Keitel, vient et va signer devant un parterre assez impressionnant. D'ailleurs, les images sont disponibles. Enfin, on a les images filmées de cette capitulation. Il se retrouve devant Joukov, l'homme qui a pris Berlin, le soviétique. Le maréchal Taylor, britannique, qui représente Eisenhower, le général Spatz, américain, et puis il y a également le général Delattre de Tassigny qui va représenter la France.
Pour la France.
Et Keitel signe la capitulation un peu avant minuit, le 8 mai.
À 23h01 exactement. Mais pour les Russes, ce n'est pas le même horaire puisqu'il y a un décalage horaire et donc pour ce qui était l'URSS à l'époque, cette capitulation est actée le lendemain, donc pour nous aujourd'hui, le 9 mai 1945.
Oui, absolument. Le 9 mai 1945, pour horaire soviétique, c'est la capitulation du Reich. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, il y aura un grand défilé militaire sur la Place Rouge, qui est une espèce de triomphe à la romaine, où l'on voit les soldats soviétiques qui viennent déposer au pied du mausolée de Lénine peut-être des centaines de drapeaux nazis pris à divers régiments. Il y a une espèce de mise en scène assez extraordinaire à ce moment-là. Et à partir de 1945, eh bien, le 9 mai va devenir une date référence que l'Union soviétique va régulièrement, tous les ans, célébrer, Mais ce n'est pas la seule grande date à l'époque, parce qu'il y a également la Révolution d'octobre, qui est quand même aussi une date référence. Or, depuis la chute de l'URSS, et en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la commémoration à la Révolution d octobre est tombée, je dirais, en désuétude. Par contre, le 9 mai, c'est sans doute dans l'histoire russe aujourd'hui et dans la mémoire russe aujourd'hui, la seule grande date nationale qui unifie autour de cette mémoire de la capitulation nazie la société russe. D'où les célébrations extraordinaires qui sont faites chaque année.
Alors, avant de venir justement sur ce chapitre de la Russie et de l'URSS pour ce qui était en 1945, est-ce que vous avez une petite précision à apporter sur la façon dont les habitants de notre région ont accueilli cette capitulation ?
Alors, le 8 mai 1945, effectivement, ou plutôt d'ailleurs le 9, parce qu'on l'a su dans la nuit, la capitulation. Donc, il y a effectivement à Toulouse toute une série de manifestations de joie. Mais à vrai dire, je crois que plus important pour les sociétés régionales, si j'ose dire, ce fut plutôt la libération, plus que le 8 mai, parce que la libération a été marquée un peu partout par des événements particuliers, des combats, des exécutions sommaires aussi. Donc effectivement, la libération a sans doute plus marqué les mémoires et les esprits que ce 8 mai 45, que l'on apprend surtout le lendemain, puisqu'évidemment, nous sommes en pleine nuit pour les Français.
Oui.
Donc Toulouse, notre région, n'a rien de particulier. Elle célèbre la fin de la guerre, mais je dirais, c'est sur le plan national. Il n'y a pas une particularité de la région toulousaine par rapport au reste du pays.
Oui, d'autant plus que vous le disiez, cette signature a eu lieu à Berlin, donc c'était quand même loin de notre région. Alors, revenons à cette URSS de l'époque. C'est vrai qu'elle... Elle était fière de, vous l'avez dit, de célébrer cette victoire contre le nazisme. Et aujourd'hui, la Russie se réfère souvent à cette victoire sur le nazisme. Pourquoi une telle fierté ?
Vous savez, quand le 22 juin 1941, les troupes allemandes attaquent l'Union soviétique, débute une période terrifiante parce que l'opération Barbarossa a été une guerre totale, au sens plein du terme. C'est une guerre, bien sûr, entre militaires, mais bien au-delà. C'est une guerre raciale. C'est-à-dire qu'Hitler envisage la guerre à l'Est comme une guerre raciale contre les sous-hommes slaves. Il s'agit de coloniser l'espace vital sur les plaines d'Ukraine, de Biélorussie, d'en faire finalement, en cas de victoire allemande, une zone de peuplement colonial. Donc, si vous voulez, il y a un paroxysme dans cette guerre. Qui plus est, l'immense majorité des morts de la guerre ont lieu sur le front de l'Est.
Oui.
C'est-à-dire aussi bien côté soviétique. D'ailleurs, on discute toujours du nombre de morts. 25 millions 30 millions. C'est-à-dire que nous sommes dans des hauteurs de pertes gigantesques, terrifiantes. La population civile a vécu l'enfer dans les zones occupées, dans les zones de combat. Pensons au siège de Leningrad, qui a été effectivement l'enfer sur Terre. Donc, dans la mémoire soviétique, c'est un moment terrifiant. Et qui plus est, ils ont le sentiment qu'ils sont les premiers vainqueurs de l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, c'est un discours que vous retrouvez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on éclipse un peu ce qu'a été l'effort anglo-saxon pour valoriser le fait que le grand vainqueur du nazisme, c'est l'Union soviétique. Et donc, le poids de la guerre repose quasi uniquement dans la mémoire russe sur l'Union soviétique.
Est-ce que c'est pour cette raison que Vladimir Poutine justifie l'invasion de l'Ukraine en disant vouloir dénazifier ce pays ?
Oui, alors... Là, vous touchez un problème, je dirais, délicat. C'est que les mots n'ont plus le même sens.
Oui.
C'est-à-dire que dénazifier, quand on veut dénazifier un pays, c'est que le pouvoir est aux mains de nazis. Utiliser le mot dénazifier, c'est évidemment faire écho à ce souvenir de la guerre. Parce que dénazifier, pour une partie de la société russe, c'est effectivement le souvenir terrible de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il faut effectivement éradiquer le nazisme qui se serait installé à Kiev.
Comme une sorte de vengeance.
Comme une espèce, effectivement. Mmh. Il faut éviter de recommencer ce qui s'est passé en 1941-1945. Mais évidemment, on se paye de mots. Parce que qu'il y ait eu, comme le soulignent régulièrement d'ailleurs les médias russes, des groupes de collaborateurs en Ukraine dans les années 41-44 jusqu'à la libération de l'Ukraine, bien sûr, il y a eu des groupes de collaborateurs. Mais il y a eu énormément de groupes de partisans ukrainiens qui se sont battus contre les nazis. Et évidemment, aujourd'hui, on se paye de mots en disant que le pouvoir ukrainien est nazi.
Évidemment, oui, parce qu'on pense à ce fameux bataillon Azov qui a quelques éléments nazis.
Qui est sans doute ultranationaliste, mais des ultranationalistes, vous en trouvez en Russie. Des groupes de collaborateurs dans les territoires occupés de Biélorussie, des pays baltes, pendant la guerre, vous en aviez. Nous avons des images où l'on voit les populations défiler et participer à la Shoah. Ça, c'est historiquement vrai. Mais de là à dire effectivement qu'il faut dénazifier l'Ukraine aujourd'hui, on se paye de mots. Mmh. C'est-à-dire que l'immense majorité des Ukrainiens et le pouvoir ukrainien n'est pas nazi.
Il y a aussi ce mot génocide que Vladimir Poutine emploie. Et là aussi, un vocabulaire qui n'est pas approprié.
Mais le génocide, alors les médias russes ou la parole officielle russe parlent d'un génocide dans le Donbass.
Oui.
Or, génocide, il faut s'entendre sur le mot. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tuer systématiquement, pour ce que vous êtes, des populations.
C'était en 2014. Hein,
C'est ce qui se passerait depuis 2014. Voilà. Or, le génocide, évidemment, dans notre esprit, c'est d'abord la Shoah. C'est le génocide envers les Juifs, où vous êtes tués. Parce que vous êtes né juif, pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Vous êtes tué pour ce que vous êtes. Et c'est ça, un génocide. Et c'est une politique systématique. Or, il n'y a pas, évidemment, de génocide systématique dans le Donbass. Mais alors, là où ça devient aussi compliqué, c'est que si l'on se place du côté ukrainien, le mot génocide a un écho, mais c'est le phénomène terrible qu'a été la grande famine de 1932. Et où effectivement, en 1932, la politique agricole et industrielle de Staline a provoqué de tels ravages qu'il y a eu effectivement une famine qui a tué au bas mot 2,5 millions d'Ukrainiens.
Donc c'est une forme de génocide.
Pour les Ukrainiens, c'est ça le génocide. Oui. Donc voyez, les mots n'ont pas le même sens pour les deux parties. Oui.
Bon, merci beaucoup pour ces précisions, Philippe Faureau. Il était nécessaire de replacer, en tout cas, ces mots dans ce contexte. Et puis, alors aujourd'hui, peut-être grand défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Nous verrons bien ce que Vladimir Poutine veut annoncer et veut dire au monde. Merci à vous, Philippe
Faureau. Merci à vous.